Arnold n'eut pas le temps de poursuivre. Le petit homme s'était levé brusquement. Il était défiguré par l'horreur que lui inspirait le crime de notre héros. « Comment, vous osez me raconter cela ? Partez, partez » dit-il avec précipitation. « Vous ne m'avez pas laissé finir. Partez, partez, je vous dis. Vous ne voyez donc pas que vous faites de moi votre complice, et surtout, ne répétez jamais que vous êtes venu ici. Ah, mon Dieu, que les gens sont égoïstes ! Vous ne songez donc à vous ? Vous trouvez peut-être que je n'ai pas assez souffert ? Il faut que vous, le fils de ma femme, vous, de qui j'eusse plutôt attendu de l'aide, il faut que vous veniez également m'accabler. Je ne fais pourtant de tort à personne. Mes vieux jours s'écoulent ici dans la tranquillité. Vous voulez que, sur la fin de ma vie, je sois mêlé à une histoire d'assassinat ? C'est honteux. » Ce langage surprit Arnold. « Mais, répondit-il, ne m'aviez-vous pas fait comprendre que vous n'attendiez plus rien de la vie, que vous étiez décidé à vous venger, enfin à vous faire rendre justice ?»« Jamais, s'écria le petit homme, jamais je ne vous ai dit cela. Ne déformez pas mes paroles. Mais partez, je vous l'ordonne. Partez, laissez-moi mon triste sort. » Arnold se leva à son tour. Il eut un geste désabusé. Les hommes sont donc ainsi. Faut-il que, dès qu'ils courent un risque, ils oublient la confiance, l'amitié qu'ils vous ont témoignée ? Comment est-il possible que la seule peur de se compromettre puisse changer un être au point de lui faire renier ce qu'il a de plus cher ? Ce fut avec amertume qu'Arnold se dirigea vers la porte. Il appartenait à ces délicats qu'un tout petit peu de froideur suffit à faire replier sur eux-mêmes. Non, il n'insisterait pas. Il avait compris. Avant de refermer la porte, il jeta sur le petit homme un regard plein de pitié. Ce dernier, ruisselant de peur, lui faisait encore signe de partir. « Ne craignez rien, » dit avec noblesse notre héros. « Personne ne saura jamais que je suis venu ici. Il est tard. Vous pouvez vous coucher en toute tranquillité. Adieu, monsieur. » Lorsqu'il se retrouva dans la rue, Arnold resta un instant indécis. « Que faire ? Où aller ?» La pensée de se constituer prisonnier traversa son esprit. En le faisant, n'eût-il pas, en quelque sorte, diminué la gravité de sa faute ? Mais en ne le faisant pas, peut-être échapperait-il au châtiment. La pluie n'avait pas cessé. Les rues étaient désertes. On devinait que c'était une soirée où les théâtres eux-mêmes étaient à demi vides. Il appréhendait de rentrer à son hôtel. Peut-être la police était-elle venue l'arrêter. Ne l'ayant pas trouvé, l'attendait-elle, cachée dans les rues transversales, sous les porches, dans le bureau même de l'hôtel ? Il marcha droit devant lui. Les rues, celles qu'il aimait comme les autres, lui étaient devenues indifférentes. Ce qui se passait en lui était tellement intense que le décor, quel qu'il fût, lui semblait lointain et comme posé pour d'autres hommes. Que faire ? Où aller ? Il entendait le bruit monotone de ses pas. C'était donc lui qui marchait ainsi sous la pluie. Il avait beau se retourner, personne ne le suivait. Il était seul. Soudain, il aperçut des lumières, entendit des autobus. Inconsciemment, il avait dirigé ses pas vers la place Blanche, à proximité de laquelle se trouvait son hôtel, son restaurant, le dancing où Génia aimait à dire qu'elle travaillait, le cinéma où tous les vendredis il passait son après-midi, le petit bar où il jouait aux cartes et où il rencontrait ses amis. Un passant, puis un deuxième, puis un troisième, l'avertirent qu'il approchait des foules. Les ailes, sans inclinaison du moulin rouge, tournaient lentement dans l'espace, bien qu'il n'y eût aucun vent. Arnold hésitait à se mêler au monde. Finalement, il traversa une place, s'engagea dans le boulevard Clichy. Plusieurs fois, il passa devant le petit bar dont nous venons de parler, non point, comme il semblerait, par besoin de retrouver un ami, mais parce qu'il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de policiers aux alentours. L'inconséquence d'Arnold était sans limite. Il avait la certitude que ses poursuivants connaissaient son nom, son adresse et, par conséquent, ses habitudes. Pourtant, de constater qu'il n'y avait personne de suspect autour du café lui fit un bien immense, comme s'il était déjà sauvé. Soudain, il tressaillit. « C'est toi, Arnold !» avait crié une voix. il se retourna avec brusquerie, prêt à fuir. Il aperçut alors un individu qu'il connaissait pour avoir joué quelquefois aux cartes avec lui. Durant une seconde, il eut l'impression que ce dernier était de la police, qu'il savait tout, qu'il allait se démasquer. « Qu'est-ce que tu peux bien faire à pareille heure dans la rue ?» demanda l'homme. Cette familiarité, à laquelle il n'eut jadis prêté aucune attention, le réconforta. « Qu'est-ce que je fais ?» répéta Arnold. « Parfaitement, » reprit l'autre en feignant par plaisanterie d'être chargé de surveiller la conduite de son camarade. « Mais j'allais rentrer me coucher, » répondit Arnold. « Tu t'imagines peut-être que je vais te croire, » continua l'ami sur le même ton. « Reconnais plutôt que je te surprends en quête de bonne fortune, et dire que, pendant ce temps, Génia s'imagine que tu dors bien sagement. Je ne vais bientôt plus pouvoir te lâcher d'une semelle. Dès que tu es livré à toi-même, on peut s'attendre à tout de ta part. » Arnold frissonna. « Il sait la vérité, » pensa-t-il. « Il va avertir la police. Je vais être arrêté avant même d'avoir pu me justifier. » « Allons, rentre, et tout de suite, » dit encore l'ami qui se croyait de plus en plus spirituel. « Demain, tu nous expliqueras les raisons de ta présence à une heure aussi indue dans ta rue. » Tremblant de peur, Arnold s'empressa d'obéir. « Bien, bien, je vais rentrer. »« Mais qu'est-ce que tu as ?» demanda le camarade qui croyait qu'Arnold présentait à son tour. « je vais rentrer !» répéta notre héros en s'éloignant de son interlocuteur qui, étonné, le regardait sans comprendre. « Au revoir, au revoir !» Lorsqu'il fut seul, Arnold poussa un soupir de soulagement. Malgré la pluie, une foule assez dense circulait sur le boulevard. « Génia, Génia, tu penses que je dors ?» dit presque à haute voix le jeune homme. Il se souvint alors de sa liaison avec cette danseuse. Il se souvint alors de la méchanceté de sa conduite, de la dureté avec laquelle il se sépara d'elle pour devenir l'amant d'une femme qui passait dans le milieu qu'il fréquentait pour appartenir à la haute société. Il se souvint de cette nuit où elle était venue en larmes le supplier de ne pas l'abandonner, de cette nuit où elle lui avait promis de lui être éternellement fidèle, de cette nuit où elle avait voulu changer de vie, devenir sa femme et le rendre le plus heureux des hommes. Il l'avait écoutée en fumant nerveusement. Dans sa joie d'être devenu l'amant de la femme d'un bijoutier de la rue de la Paix, pas le moindre sentiment de pitié pour Génia n'avait trouvé de place. Toutes les implorations, il les avait interrompues par des réflexions méchantes et dures. Afin de lasser cette passion, il avait été jusqu'à blesser l'amour-propre de la pauvre danseuse en lui reprochant d'être la fille d'un boulanger. S'il devenait son mari, il ne serait reçu nulle part plus tard lorsqu'il serait un grand homme politique. En outre, elle était plus âgée que lui. Elle serait déjà vieille et laide au moment où il serait en pleine possession de ses moyens. Malgré cela, elle l'avait supplié, elle s'était mise à pleurer pour l'attendrir. Il lui avait dit qu'il n'épouserait jamais une femme qui avait eu il ne savait combien d'amants. S'il avait bien voulu faire d'elle sa maîtresse, c'était parce qu'il avait cru qu'elle était assez intelligente pour comprendre qu'elle devait s'effacer le jour où une occasion se présenterait à lui. Mais l'amour de cette femme était tel que, plus il avait humilié, blessé, plus elle avait tenu à lui. Finalement, il s'était apprêté à sortir, la laissant absolument désespérée, parlant de se donner la mort, à quoi il avait répondu qu'elle n'en aurait certainement pas le courage. Elle s'était alors jetée en travers de la porte. Il l'avait repoussée avec brutalité et il était parti. Elle avait couru derrière lui en pleurant, en criant, en le menaçant, mais chaque fois qu'elle avait tenté de le retenir, il l'avait frappée, sans éprouver vis-à-vis des passants de honte d'agir aussi durement, les prenant même parfois à témoin de la folie de cette femme. Or, en cette nuit de détresse, il songeait de nouveau à elle. Il avait un immense besoin de paix, de protection, d'amour. Génia ne l'avait peut-être pas complètement oublié. Ah, s'il en était ainsi, comme il saurait réparer les fautes qu'il avait commises, comme il saurait se faire pardonner, comme il saurait rendre cette femme heureuse. La pensée de revoir Génia se fit alors plus précise dans son esprit. Mais il craignait qu'elle n'eût un nouvel amant. En arrivant devant le dancing où Génia était employée, il eut une hésitation. Comment allait-il atteindre ? Les vêtements déformés par la pluie, sans argent, il ne pouvait songer à pénétrer dans cet établissement de nuit, à la porte duquel deux chasseurs et un portier montaient la garde. Mais, en stationnant devant l'entrée, il risquait d'attirer l'attention. D'autre part, il pouvait se faire qu'elle eût été congédiée, qu'elle fût partie d'elle-même. Après avoir passé une dizaine de fois devant le dancing, il résolut finalement de faire demander son ancienne maîtresse par un des chasseurs. Il s'approcha du plus jeune. « Voulez-vous, lui dit-il, prévenir Mademoiselle Génia que M. Arnold désirerait lui parler ?» Le chasseur eut un geste de refus. « Allez-y vous-même, dit-il. » Cette injonction étonna Arnold en même temps qu'elle le réconforta. Rien ne le distinguait donc de ses semblables. Il s'engagea dans le petit escalier dont les murs étaient tendus de tapis d'Orient prêtés. Arrivé sur une sorte de palier aménagé en vestiaire, il s'approcha de l'entrée de la salle et, à demi dissimulé par un paravent, il chercha Génia des yeux. Il y avait peu de monde autour des tables, mais la piste était encombrée de danseurs. Soudain, il l'aperçut. Elle dansait avec un homme âgé et elle riait. Malgré une coiffure différente, malgré ses vêtements nouveaux, elle n'avait pas changé. Elle lui semblait avoir embelli. Comme si elle se fût doutée de cette réapparition, elle avait justement cette nuit-là tout son éclat. En même temps qu'il en souffrit, Arnold en éprouva une joie amère. Comme, sans le voir, elle regardait dans sa direction, il leva la main. Elle eut un sursaut. Son rire disparut. Sans cesser de danser, elle ne quitta plus des yeux le jeune homme. Finalement, lorsque l'orchestre se tut, elle abandonna son partenaire et s'approcha d'Arnold. « Toi, ici ? » demanda-t-elle, comme s'il était encore son amant et que tout ce qui s'était passé depuis leur séparation avait été sans intérêt. « Je voudrais te parler, » fit le jeune homme. « Tout de suite ? » interrogea-t-elle. « Quand tu voudras. »« Ah bon, j'aime mieux cela. Eh bien, redescends et attends-moi dehors, mais de manière que les chasseurs ne te voient pas. Je vais m'arranger pour venir. » Surtout, avant de me parler, attends que je te fasse signe. Tu n'auras qu'à me suivre. » Toutes ces indications furent données comme par une femme amoureuse. Arnold les avait écoutées avec une soumission, avec une joie qui eussent dû sembler étrange à Génia après ce qui s'était passé. Mais cette évolution, en vraie femme qu'elle était, ne lui semblait aucunement singulière. On eût dit qu'elle l'avait toujours prédite. De nouveau seul, Arnold eut conscience d'être un autre homme. Il avait repris confiance. L'accueil de Génia lui avait paru d'une douceur extraordinaire. Il s'éloigna donc du dancing, ainsi qu'on le lui avait recommandé, et, de loin, en guetta l'entrée. « Pourvu qu'aucun accident fâcheux ne m'arrive avant qu'elle m'ait rejoint. Que penserait-elle de moi si on m'arrêtait à présent et qu'elle ne me trouve pas? Elle croirait que je me suis encore moqué d'elle. » Il regardait avec anxiété tous les hommes qui passaient, craignant à chaque instant que l'un d'eux ne s'approchât de lui et ne lui parlât. Au moindre bruit imprévu, il sursautait. Il ne savait quelle attitude prendre pour ne pas attirer l'attention. Et lorsque, machinalement, il s'arrêtait pour contempler quelque étalage, il repartait aussitôt, de peur d'être soupçonné de préparer un mauvais coup. Soudain, il poussa un cri de joie. Il venait d'apercevoir Génia, qui, sans doute pour ne pas paraître pressé, s'attardait avec le portier. Puis, comme si toutes les recommandations qu'elle lui avait faites n'eussent plus eu de raison d'être, elle se dirigea vers lui sans paraître songer à s'en cacher. Sur le moment, il en fut légèrement gêné, mais dans son bonheur, il oublia tout. Lorsqu'elle l'eut rejoint, elle le regarda avec attention. « Cela ne te réussit pas de changer de femme. Tu as bien mauvaise mine. » dit-elle avec ironie. Il ne répondit pas. « Eh bien, qu'est-ce que tu as à me raconter, mon petit Arnold ?» Il était visible qu'elle s'appliquait à paraître sans rancune, à paraître avoir tout pardonné et être heureuse dans sa nouvelle condition. « Comme tu as l'air fatigué, veux-tu prendre quelque chose de chaud ? » dit-elle maternellement. Elle l'obligea à entrer dans une brasserie, lui baissa le col de son veston, lui ôta son chapeau et, prenant ses mains dans les siennes, les frictionna. Arnone la regardait avec amour et reconnaissance, mais elle faisait semblant de ne pas s'en apercevoir. « Génia, dit-il après qu'il se fut restauré, j'ai à te parler. M'aimes-tu toujours ?» La jeune femme ne répondit pas. « Génia, je t'en supplie, il faut m'aimer. Je suis tellement malheureux. » Cette fois, la jeune femme parla, mais avec beaucoup de douceur, comme si elle tenait à montrer qu'elle n'était pas de ces femmes qui triomphent d'un renversement de situation. « Je n'y peux rien, mon pauvre chéri. Elle a été méchante avec toi, cette femme ?»« Oh non, ce n'est pas cela. C'est beaucoup plus grave. »« Son mari vous a surpris ?» Arnaud eut un geste de lassitude. « Ce n'est pas cela, c'est beaucoup plus grave. Il y a longtemps que tout est fini. Elle m'a quitté, mais moi, j'ai commis un crime. » Arnold venait à peine de prononcer ces mots qu'il lui sembla que tout croulait autour de lui. Génia s'était écartée. Elle le regardait avec horreur. Pourtant, elle eut encore le courage de lui demander s'il parlait sérieusement. « Mais oui, » fit piteusement Arnold. « Tu es donc devenu fou ?» Elle se leva, appela le garçon, paya les consommations. Il était apparent qu'elle n'avait plus qu'une pensée, quitter le jeune homme avec ostentation, afin qu'un consommateur pût en témoigner plus tard, le cas échéant. Comme le garçon desservait la table, elle se tourna vers Arnold et lui dit avec froideur et assez fort pour être entendu par son entourage « Puisque tu as fait une chose pareille, je ne peux plus te voir !» Puis, sans même attendre de réponse, elle sortit avec rapidité, laissant notre héros à ses remords et à ses inquiétudes. Arnold était sans force. Où qu'il se tournait, il ne rencontrait que des ennemis. Personne ne voulait plus l'écouter. À peine avait-il parlé que son interlocuteur se dérobait. Il comprit qu'il ne lui restait plus qu'à choisir entre deux solutions, ou se donner la mort, ou se constituer prisonnier. Mais il n'avait de courage ni pour l'une ni pour l'autre. Tout en marchant, il se demandait avec angoisse ce qu'il adviendrait de lui lorsque ses forces l'abandonneraient. Il tomberait sur un banc. Où le transporterait-on? C'était la question qu'il se posait. Elle le hantait. À l'hôpital ou bien dans un commissariat? Sous un porche, un mendiant dormait. Arnold le regarda et continua son chemin. Puis il revint sur ses pas et le regarda de nouveau. Finalement, il lui tapa sur l'épaule. Le mendiant ouvrit les yeux, mais voyant qu'il n'avait pas affaire à un sergent de ville, il ne bougea pas. « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» lui demanda avec anxiété Arnold. Le vagabond ne répondit même pas et il se rendormit. Arnold reprit sa course. À mesure que le temps passait, il sentait que l'heure du châtiment approchait et que les moyens de s'y soustraire se faisaient plus rares. Il n'allait certainement pas tarder à être pris. « Ah, si au moins, pensait-il, je pouvais sauver la vie à quelqu'un, si je pouvais empêcher un crime, si je pouvais faire une belle action avant d'être arrêté. » Avec la même force qu'il avait désiré savoir un instant auparavant ce qu'il advenait des mendiants que l'on ramassait sur la voie publique, il voulait faire à présent une belle action de laquelle il pourrait se vanter au moment inévitable où il devrait rendre ses comptes à la justice. Mais il avait beau regarder autour de lui, seule une vie monotone, sans belles ni mauvaises actions, lui apparaissait. Ah, si, grâce à une baguette magique, il eût été transporté sur le lieu d'un crime, comme il eût été heureux! Avec quelle abnégation il eût risqué sa vie pour maîtriser l'assassin! Avec quelle sollicitude il eût relevé la victime! Soudain, son attention fut attirée par un bruit de voix. Il était peut-être 2 heures du matin, et pourtant, parmi ces voix, on reconnaissait celle d'une fillette. Arnold s'arrêta, et se dissimulant dans une encoignure, il tâcha de surprendre quelque chose. Une scène bizarre se déroula alors devant ses yeux. Elle avait pour décor une impasse qu'éclairaient faiblement les lumières de 2 ou 3 enseignes d'hôtels borgnes. De temps à autre, un couple s'y aventurait. Comment se faisait-il qu'à une heure aussi avancée, dans un tel lieu, se trouvât une fillette? Elle n'était pas seule. 2 femmes l'accompagnaient, ainsi qu'un homme dont la mise correcte, l'aspect cossu, détonnait étrangement. les paupières soigneusement levées, les oreilles aux aguets, Arnold, sans se montrer, s'efforçait de comprendre ce qui se passait. Surmontant les cris de la fillette, il percevait les voix des femmes. « Puisque je vous dis, monsieur, que la petite ne demande pas mieux, » disait l'une. « Vous n'avez qu'à nous suivre. Ce n'est pas la première fois. L'hôtel nous connaît. » Puis, s'adressant à la fillette, « Ne pleure donc pas comme cela. Monsieur ne t'emmènera pas. » À ce moment, l'homme se mit à parler. « Je vous donnerai le double de ce que vous me demandez, mais venez chez moi. J'ai une situation, je ne peux pas la compromettre de cette façon. Nous sommes ici à la merci d'un chantage, d'une descente de police. Encore une fois, vous ne courez aucun risque puisque nous vous le disons. Vous voyez bien que la petite a peur. Vous devriez vous estimer heureux qu'elle accepte de vous suivre à l'hôtel. Il ne faut pas être trop exigeant. Vous n'êtes pas prêt de trouver une petite aussi jolie qui ne demande qu'à vous faire plaisir. » Mais l'inconnu semblait redouter quelque chose. Il continuait d'insister pour qu'on lui permît de conduire la fillette chez lui. Devant un désir si fortement ancré, une des femmes feignit de conseiller à la fillette d'accepter l'offre de ce monsieur. Mais l'enfant s'accrochait désespérément aux matrones, dont l'une semblait être sa mère. La bouche sèche, les poings serrés, Arnold ne perdait rien de cette scène. Finalement, il comprit clairement de quoi il s'agissait. Les deux femmes avaient accosté ce passant. L'une d'elles lui avait laissé entendre qu'elle avait une petite fille peu farouche. Intéressée, l'inconnue avait demandé des explications. Cependant qu'elle les lui donnait, l'autre était partie chercher la fillette au petit hôtel où toutes elles habitaient. Celle-ci avait brusquement éveillé les sens du passant. Mais la peur d'un scandale, d'un guet-apens, d'un chantage, le retenait. C'est alors qu'il avait eu l'idée de proposer aux deux femmes de lui permettre d'emmener l'enfant. Il s'engageait, après l'avoir promenée dans son automobile, à la déposer au coin de l'impasse. Mais, aussi bas que certaines gens peuvent tomber, ils n'en conservent pas moins une morale à eux. Toutes les fantaisies du passant, si elles avaient eu pour cadre leur hôtel, eussent été tolérées avec indifférence par les deux entremetteuses. Par contre, que cette fillette pût rester seule avec un inconnu, même si ce dernier était un brave père de famille, leur semblait une chose inadmissible et dangereuse. Aussi l'enfant, dûment stylé par sa mère et l'ami de cette dernière, jouait-elle la frayeur. Pourtant, malgré le refus qu'il rencontrait et bien qu'il sût qu'il ne s'engagerait jamais dans ce coupe-gorge, l'homme ne s'en allait pas. Pendant 10 longues minutes, la discussion se prolongea encore à voix basse. Finalement, le passant dut promettre une telle somme que les mégères cédèrent et, comme par enchantement, il n'en fallut pas davantage pour que la fillette les imitât. Les deux femmes se perdirent dans l'impasse, cependant que l'inconnu, marchant à côté de la fillette, sur le boulevard, en pleine lumière, avec une certaine gêne d'ailleurs, faite d'un mélange d'attention pour l'objet de ses désirs et de précautions, se dirigeait vers une automobile arrêtée à une cinquantaine de mètres plus loin. 1000 pensées traversèrent alors l'esprit d'Arnold. Il se souvint de sa jeunesse, de son crime, de ses espérances déçues. « Est-il possible, murmura-t-il, qu'il y ait sur la terre des hommes capables de commettre de telles horreurs ?» Brusquement, il lui apparut qu'une occasion unique de racheter ses fautes venait de lui être envoyée, par Dieu sans doute. Après, on pourrait l'accabler, le condamner, il n'en resterait pas moins qu'il aurait sauvé une pauvre enfant, qu'il aurait fait arrêter un ignoble individu. Comme un fou, il se lança à la poursuite de l'étrange couple. « Que faites-vous » cria-t-il à l'homme qui déjà avait ouvert la portière de son automobile. « Vous allez me suivre. J'ai tout vu, tout entendu. Ce que vous projetez est ignoble. Vous allez en rendre compte à la justice. Vous méritez la prison, le bagne. » Le passant était devenu pâle comme un mort. En l'espace d'un éclair, il se vit conduit au commissariat, interrogé, gardé à la disposition de la justice. Le lendemain, comme il ne reparaissait pas, sa famille signalait sa disparition. Elle apprenait alors ce qui était arrivé. Sa carrière était brisée, ses enfants déshonorés. Sa femme demandait le divorce. Renié de tous, ruiné, il ne lui restait plus qu'à s'expatrier. Devant de telles perspectives, il n'eut plus qu'une pensée, achetez le silence de notre héros. Dites-moi combien vous voulez. Je vous donnerai tout ce dont je peux disposer, tout, mais je vous en supplie, oubliez ce que vous venez de voir. » Pendant cette scène, l'enfant était redescendu de l'automobile, puis, après avoir feint de ne rien comprendre, elle s'était brusquement enfuie. Arnold, pourtant, eut le temps de dévisager la fillette. Il faillit pousser un cri. Le sang lui monta à la tête. Cette fillette avait les traits d'une femme. Aucune jeunesse n'apparaissait dans son regard. Des jupes courtes, des cheveux tombant dans le cou, une taille exiguë, des manières volontairement gauches et naïves, contribuaient seules à donner l'illusion de l'enfance aux hommes aveuglés par le désir. Mais elle avait disparu si vite qu'Arnold ne tint pas compte de cette révélation. Tout à sa pensée de faire une belle action, il continua. « Suivez-moi, il le faut, vous m'entendez ? Il faut que nous allions tous les deux au commissariat. » À ce moment, le passant s'aperçut que la fillette s'était enfuie. Comme si on lui avait brusquement rendu la vie, il se mit à respirer plus librement. La preuve de son infamie avait disparu. Il pouvait donc nier. Mais il ne laissa rien paraître de sa joie, préférant arranger les choses à l'amiable. Il regarda Arnold avec plus de sang-froid. Il constata que le jeune homme était mal vêtu, que malgré la pluie et le froid, il n'avait pas de pardessus, que son visage était celui d'un illuminé. Il eut alors nettement le sentiment qu'il était victime d'un fou ou d'un vagabond qui essayait, grâce au hasard qui lui avait permis d'assister à cette scène, de faire du chantage afin d'en tirer quelque profit. « Vous avez besoin d'argent, je le vois, » dit-il. « Je vais vous donner ce qui me reste. Cela vous aidera. »« Je ne veux aucun argent, » répondit Arnold. « Pour qui me prenez-vous ? Ce serait trop simple. Il suffirait d'être riche pour tout se permettre. Je veux que vous soyez châtié. » « Mais, mon pauvre garçon, » continua le passant, « vous voulez donc que je me tue à vos pieds ? Vous ne comprenez donc pas ce que c'est que la faute d'un instant ? J'avais perdu la tête. Oui, c'est vrai, je mérite un châtiment, mais ce châtiment, ne croyez-vous pas qu'il me sera infligé lorsque je reverrai les yeux innocents de mes enfants, de mes chers enfants, qui ignorent dans quel abîme a failli tomber leur père ? Ces enfants, monsieur, s'ils savaient ce que vous avez fait, ils vous remercieraient à genoux. Vous avez fait la plus belle action qu'un homme puisse faire, celle de sauver un autre homme. » À cause de la confusion de son esprit, à cause de la fièvre qui le minait depuis des heures, à cause de sa nervosité et de son besoin d'être plein, Arnold perdit de vue le sens exact de son intervention. Il lui apparut qu'en laissant la liberté à cet homme, il n'en restait pas moins fidèle à son désir de faire une belle action. D'ailleurs, son instinct de conservation l'avait retenu à son insu. Il savait bien qu'en livrant cet inconnu à la police, il se livrait également. Ce fut donc avec un certain soulagement qu'il trouva dans les paroles du passant de quoi calmer sa conscience, sans pour cela être obligé de prendre contact avec la justice. Comme Arnold ne répondait pas, l'inconnu lui tendit les mains avec effusion. « Merci, dit-il, vous êtes un homme, vous avez du cœur, ce qui est la plus grande des qualités. » Il parlait avec sincérité, car, à peine remis de ses émotions, il jouissait encore d'être sain et sauf. Arnold se méprit sur cette sympathie subite. « Vraiment ? » demanda-t-il avec candeur. « Vous me trouvez des qualités ?»« Oui, » continua l'inconnu, malgré tout reconnaissant, et qui, brusquement, venait de s'apercevoir qu'il n'avait pas affaire à un escroc, ni à un maître chanteur, mais à un illuminé. « Vous souffrez de la laideur de ce monde, et quand vous voyez le mal, vous vous révoltez, et vous ne songez plus qu'à le châtier. Je vous ai ressemblé, croyez-moi. Comme vous, je regrettais de tout mon cœur de céder parfois à la tentation. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous en donne ma parole, je ne l'eusse jamais fait jadis. Mais là, je viens, et, avec l'âge, la soif du plaisir, la perte de la fierté, du respect de la justice, du sens moral. Vous êtes jeune, vous, avez cette chance, et tout ce que je peux souhaiter, c'est que vous le restiez toute votre vie. » Arnold était bouleversé. Pour la première fois depuis son crime, il rencontrait un homme qui lui parlait avec amitié, avec tendresse même. Une joie immense illuminait son âme. Il aurait voulu saisir la main, le bras, étreindre par les épaules cet homme correct qui venait de prononcer des paroles si nobles. Comme un enfant perdu qui brusquement retrouverait son père, il lui semblait, dans cette nuit de pluie et de vent, qu'il était à l'abri, qu'il ne courait plus jamais aucun danger. Un homme puissant et riche ne veillait-il pas dorénavant sur sa personne et n'éloignait-il pas de lui, par son autorité, la méchanceté des envieux ? C'est moi, monsieur, dit Arnold, qui vous remercie. Si vous saviez le bien que vos paroles me font, si vous saviez comme je suis malheureux et comme il m'est doux, à moi, pauvre être sans défense, d'entendre une voix comme la vôtre. Tout en parlant, Arnold s'excitait. Devant lui, l'inconnu l'écoutait avec attention, sollicitude et tendresse. Ne semblait-il pas, en regardant son interlocuteur, regarder le jeune homme intègre qu'il avait été ? Oui, c'est moi qui vous remercie, car vous seul, monsieur, vous avez daigné me parler comme à un être vivant. J'ai commis un crime, j'ai tué un homme, je ne sais pas pourquoi, dans un moment d'égarement, ou plutôt, je le sais trop, par besoin d'argent. Pourtant, vous ne vous êtes pas écarté de moi et vous m'avez parlé avec votre cœur. Merci. Arnold n'avait pas achevé que la physionomie de l'inconnu changea brusquement. Ce fut pourtant sur le même ton qu'il répondit « Oui, vous êtes un brave garçon, honnête et méconnu. » En disant ces mots, il lui prit les mains, les serra avec force. « Vous avez de grandes qualités de cœur, » poursuivit-il. « Je fais sincèrement des vœux pour que la vie ne les gâche pas. Ce serait vraiment dommage. C'est un spectacle si triste que celui des vertus de la jeunesse s'émoussant prématurément. Maintenant, adieu. Adieu, monsieur. » Le bourgeois repenti monta dans sa voiture. Arnon le regardait avec une expression à la fois étonnée et reconnaissante. « Arnold, adieu. Adieu, adieu. » répondit le jeune homme machinalement. L'automobile partit. Arnold agita la main. « Adieu, adieu » balbutia-t-il. C'était à travers un nuage qu'il apercevait la voiture. Brusquement, il eut conscience qu'il était seul. « J'ai été fou » pensa-t-il. « J'aurais dû le faire arrêter sur le champ. Quel fou ai-je été de m'imaginer que cet homme était différent des autres ?» Comme toujours, c'est au moment où nous laissons apparaître la beauté de nos sentiments que les hommes nous abandonnent à nous-mêmes. Rien ne leur est plus désagréable que la présence de la noblesse, de la générosité. Mélancoliquement, Arnold se remit en route. Il était mécontent de lui-même. Il avait conscience de sa déchéance ainsi que de sa bêtise. Suis-je donc incapable de faire une belle action ? Faut-il donc que tous mes nobles élans s'achèvent toujours dans le ridicule ? Je mérite tout simplement la mort. Il était épuisé. Mais comment saura-t-on que j'ai voulu conduire cet individu en prison ? Il s'arrêta pour reprendre haleine. Comme une caresse, un vent léger effleurait son visage. Soudain, il sentit quelque chose entre ses doigts. Il s'approcha d'un réverbère. C'était une mince liasse de billets de 100 francs. L'inconnu les lui avait glissés dans la main à la fin de leur entretien et Arnold ne s'en était même pas aperçu. Il regarda ses billets avec indifférence. « Et pourtant, il me sauverait, » pensa-t-il. Mais son visage demeura le même. Sa seule préoccupation était de faire une belle action. Une seconde, il songea à les déchirer à seule fin de montrer son mépris de l'argent. Mais lorsqu'il raconterait ce qu'il avait fait, qui le croirait ? Il n'avait qu'à garder les morceaux. Non, tout cela était ridicule. Pourtant, cette intention se faisait de plus en plus précise dans son esprit. Il n'était pas tellement utile qu'il fût cru. L'essentiel n'était-il pas qu'il fût en règle avec sa conscience ? Le geste est noble, en effet, de celui qui, traqué, sur le point d'être jeté en prison, abandonne ainsi sa seule chance de salut. On ne pourrait vraiment plus l'accuser d'avoir cherché à se soustraire au châtiment. Arnold ne se résolvait pas à déchirer les billets. Finalement, il les mit dans sa poche, se réservant de les détruire plus tard. L'idée subite de gagner l'étranger lui était venue à l'esprit. Mais la perspective d'être arrêté à la frontière, ou même à la gare, l'en dissuada. « Plus je réfléchis, dit-il presque à haute voix, plus je m'aperçois qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse me sauver, faire une grande action, arracher quelqu'un à la mort. J'ai tué, eh bien, que je fasse vivre. Cela seul me rachètera. » Il aurait voulu rencontrer quelque désespéré, lui donner cet argent, et alors seulement se rendre. Ah, comme il serait fort lorsqu'on l'interrogerait! Il baisserait la tête, il reconnaîtrait toutes ses fautes, mais brusquement, celui ou celle qu'il avait préservé de la mort paraîtrait pour crier la générosité et la bonté de son sauveur. En dépit des révélations qu'on ferait sur le compte de celui-ci, le rescapé, plein de reconnaissance, lui garderait son estime et cette attitude ébranlerait les juges. Ceux-ci comprendraient alors l'homme qu'était Arnold en réalité et, lorsqu'il paraîtrait devant le jury, tous auraient pour lui une profonde indulgence. On n'irait évidemment pas jusqu'à lui serrer la main et le féliciter. Ceux qui sont appelés à rendre la justice sont malgré tout un peu les esclaves de leurs fonctions. Mais ils tiendraient autant que la mesquinerie, la petitesse, la jalousie des foules le leur permettraient à montrer à celui qu'ils venaient d'acquitter qu'ils étaient certains de son honnêteté et qu'ils ne craignaient pas d'avoir à se repentir plus tard de leur acte de clémence. Mais cette agréable vision ne rassura pas Arnold. Il était exténué. Son visage, battu par la pluie et le vent, était brûlant, ses pieds mouillés, glacés.